D'ailleurs, tiens, je lance et je commence. Donc on est vendredi
12 novembre.
Voilà, on vient de déjeuner un peu rapidement parce qu'on a notre train. Et du coup, on avait envie de vous demander, Maïté et Caroline, de avant qu'on parte à la fin de cette première résidence zéro, de nous replacer rapidement les termes de la commande, avec tout ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, puisque c'est précisément notre travail à nous de ne pas savoir.
C'est un peu ce qui nous a plu aussi, c'est de s'aventurer ensemble dans une aventure artistique qui puisse accompagner l'évolution que traversent nos deux projets respectifs dans cette ville de Brest, à savoir le quartz et le fourneau. Puis un chantier, c'est aussi boulot de l'inconnu. Et du coup, que vous soyez associés à ces réalités-là, on va les vivre ensemble. Mutation du projet fourneau à travers des mutations de la ville de Brest, d'une part, et puis...
Transformation du quartz qui appartient à l'histoire de la ville de Brest, qui a une mémoire très forte. Et puis, nous, l'enjeu de se projeter aussi sur l'avenir. Qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui se passera plus tard, avec une part de rêverie.
Et de décalage artistique qui puisse, accompagner une mutation physique et symbolique de nos projets respectifs.
Pour Jonathan Massias et Caroline Melon, un chantier s'ouvre à Brest. Au bout de la Bretagne, exactement là où la terre finit.
Donc, bref, ça je trouve ça cool.
Le fourneau déménage du port au Capucin et le bâtiment XXL du Quartz est en rénovation pendant 2 ans.
Pour moi, c'est...
Il s'agira pour Caroline et Jonathan d'habiter, de ressentir, d'écouter.
Donc on ne répond pas à la question, mais on donne...
On n'y répond pas du tout.
Prendre le pouls de la ville, d'humer ses embruns et de rencontrer les équipes du fourneau et du quartz.
Moi, je trouve ça excitant, en fait, que...
Tout dévira sûrement de ce qui était un peu prévu.
Moi, je trouve ça... En plus, si tu veux, là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un truc qu'on n'a pas creusé encore, ensemble.
Caroline et Jonathan ne savent encore rien de ce qui adviendra.
Moi, je dis, on enregistre, ça se trouve, on n'en fera jamais rien, mais c'est intéressant qu'on ait ça... Est-ce que ça nous fait envie de trucs ou pas?
Moi, j'ai adoré la salle de spectacle, avec l'échafaudage. Non, mais c'est vrai. C'est hyper beau, en fait.
Donc, premier endroit de kiff, l'échafaudage de la salle.
Bonjour. Ça va, Jo?
Moi, j'ai un peu le vertige aussi, mais je prends sur moi. Oh la vache, c'est quand même impressionnant. Moi, j'ai quand même un peu peur d'avancer. C'est sûr que c'est sécurisé, hein, ton truc.
Oui. Sinon, je tombe avec vous.
Oui, mais ça me rassure pas forcément, en fait.
Il y a des...
Oh putain que c'est beau.
Ouais, c'est ce qu'elle disait, c'est très beau. On dirait même la laisser comme ça.
60 tonnes l'échafaudage.
Alors donc on est dans le quartz. Première visite de la résidence sensible et on est avec Kevin. C'est quoi ton poste exact?
Kevin Toquin.
Je suis responsable du PC sécurité.
Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on voit?
La salle est complètement vide, vide de fauteuils. Ils ont tous été déposés et retirés. Et du coup, ça fait place à un échafaudage de 60 tonnes réparti sur l'ensemble du théâtre qui va du sol au plafond.
C'est comme si on avait voulu figurer l'ensemble du volume de tout ce qui est de l'air normalement et ce qui est rempli par la parole des artistes qui sont sur scène et tout, là c'est comme si c'était cette espèce d'énorme, c'est complètement arachnéide, on dirait une énorme toile d'araignée. C'est hyper beau. C'est beau, je trouve, parce qu'en termes sonores, là, on a l'impression que c'est comme une grosse bête, en fait, qui continue à, tu sais, un gros animal où ça a l'impression que ça travaille un peu dans tous les coins. Combien de kilos de trac ici?
Et de
combien
gouttes de sueur.
Et de sueur et de flips et d'émotions et d'applaudissements et de bides.
Merci. Il y a toujours des marches à monter.
Et est-ce que justement tu pourrais nous amener, c'est quoi ton endroit préféré à toi?
Moi, c'est au niveau de la terrasse. Et quand je fais ma ronde, j'aime bien me mettre devant et on a une vue sur la rade de Brest.
On peut y aller ?
C'est là mon.
On y va ?
Bon, l'endroit que je préfère.
Et voilà.
Donc là, on est dans ton endroit préféré.
Je trouve que c'est reposant ici.
Tu peux décrire un peu ce qu'on voit ?
Là, on est à l'extérieur et du coup, on a vu pratiquement sur le parvis du quartz, vu sur les arbres, sur la cour du forum, donc l'arrière du théâtre, et surtout une vue sur la rade de Brest en face de nous. Et du coup, c'est très, très calme, très reposant, je trouve. Permet de se poser un peu et de regarder un peu ce qui se passe à l'extérieur et l'ambiance finalement de la ville.
Ça doit être beau de nuit, parce que de nuit la rade est quand même vachement belle, oui. Avec toutes les lumières. Hein. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire à votre avis? À côté de quoi on ne doit pas passer?
Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est...
Thierry Guilpin, du service historique de la Défense.
C'est Brest et la mer. Je pense que c'est essentiellement ça, à tout niveau, quoi. C'est une ville qui est tournée vers la mer, qui a toujours vécu de par la mer. Je pense que là, c'est un axe forcé.
Bah c'est la rade.
Caroline Raffin, directrice du fourneau.
Donc la rade où bah oui on a un port militaire conséquent, mais il est suffisamment vaste pour offrir à tout Brestois qui le souhaite un terrain de jeu plutôt extrêmement réjouissant. Donc la question de comment cette ville et ses habitants pensent cette ville, l'utilisent, elle est importante en fait, de comprendre un peu le rythme des Brestois, même si évidemment il y en a. Ça évolue en fonction des générations et des quartiers et de la manière dont politiquement cette ville évolue aussi et son urbanisation, puisque clairement elle n'a cessé d'évoluer et elle va continuer à muter de son potentiel qui est celle de son histoire en fait, hein, et de son lien avec la marine et d'évolution justement de la place de la marine dans cette ville. Bon, je retourne le plan si vous voulez bien.
Christine Berthoubalot, du service patrimoine de Brest Métropole.
Et donc en fait l'histoire de cette ville, c'est l'histoire de cette rivière, ce fleuve même, c'est un fleuve qui s'appelle la Pinfeld. Et de cette rade de Brest ici, qui est une des plus grandes en Europe, et puis qui permet un accès, alors je dirais pas simple, mais en tout cas tranquille, et qui permet de mettre à l'abri des flottes.
Parce que tout ça, là, tout ça, c'est la marine, tu vois, tout ce qui est en...
Yann Le Gatte et Olivier Pollard, historiens et écrivains. Ouais.
Donc ça veut dire que la ville est coupée en deux.
Enfin, si, parce que vous avez le recul des historiens. Mais
nous, en venant, quand on a vu, moi, je croyais même pas.
C'est-à-dire quand on est monté au Capucin et qu'on nous a dit ça, personne n'y va.
Et tu vois la vie qui existe, c'est ça qui est complètement dingue. Tu vois des gens.
Ce qui est marquant, c'est cette rivière qui coupe Brest en deux et qui est aujourd'hui 100% militaire. Auparavant, il n'y avait pas cette coupure. Voilà, donc le port était à la fois militaire, mais aussi de pêche et de commerce. Auparavant, toutes les constructions navales qui se faisaient ici se faisaient dans la Paffeld, sur les rives. Donc il faut imaginer des très très grands bâtiments. Tout ça a malheureusement disparu justement durant la Seconde Guerre. Des très grands bâtiments qui servaient de lieux de stockage, les corderies notamment pour tisser les cordes, etc.
Pour pas grand chose, pour trois fois rien. T'en prenais pas une fois pour 10 ans. Depuis qu'il y avait plus de galériens, c'est au bagne qu'on faisait son temps.
Le port de Brest, l'arsenal, les infrastructures ont été construites essentiellement par les bagnards. Il y a eu un bagne pendant 100 ans sur Brest. Le bagne à Brest s'est installé justement pour participer à la construction des infrastructures. Donc ils ont construit les quais, ils ont construit les fentes de radou, ils ont construit énormément de bâtiments. Et à cette époque-là, le port se transforme beaucoup. La marine devient marine à voile à marine à vapeur, en fait. Et donc, on ne peut plus construire ces grosses structures dans la Paffeld. Et c'est pour ça qu'on établit les Capucins, les ateliers des Capucins. Donc, cette bibliothèque, ce grand lieu, il n'y a pas qu'une bibliothèque, mais ce grand lieu, c'était les anciens ateliers de construction des grandes pièces en métal et des moteurs. Et les bagnards, une fois que l'arsenal a été construit, en fait, les bagnards ne servaient plus à rien parce que les constructions nécessitaient des compétences techniques qui étaient plus fournies par les bagnards. Et donc c'est pour ça que le bagne de Brest ferme au milieu du 19e.
Aujourd'hui le bagne c'est du passé et nous partons tous pour Cayenne. Mais rien à Brest n'est oublié. J'entends encore le bruit des chaînes.
À l'époque, il y a un bourg à Recouvrance, là. Et puis, il y a le château. Alors, la ville, au départ, elle est vraiment dans l'enceinte du château. Voilà. Puis, au fur et à mesure que l'arsenal se développe, eh bien, la ville va se développer aussi. Et puis après... Vauban va arriver, redessiner les défenses du château. Mais il va aussi finalement poser le plan de la ville. Il va dessiner un certain nombre de rues. Et la ville, ce qu'on appelle, les Brestois appellent ça Brest même, c'est la ville dans ses fortifications. Alors, il y a une autre période qui est super importante pour l'histoire de la ville, c'est le Second Empire. Parce que ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui, dans le paysage urbain, c'est ce que le Second Empire a apporté. Et aujourd'hui, finalement, on a encore sous les yeux ces éléments-là, c'est-à-dire le pont, le port et la gare. Alors, il y a une autre période qui est intéressante et importante pour la ville, c'est 1917. Le port va recevoir le plus grand nombre de troupes américaines en 1917. Et les Américains, ils arrivent avec leurs infrastructures. Je pense que ça a dû être le séisme quand ils sont arrivés à Brest. Et ils transforment en profondeur ce port de commerce. Alors, jusque-là, ce qui est aussi spécifique à Brest, c'est que jusque-là, la guerre a profité économiquement à cette ville. La Seconde Guerre mondiale, ça marque le moment où, ça va devenir une catastrophe, cette guerre. Tout se détraque, en fait, à ce moment-là, et s'enchaînent les événements que vous connaissez, puis... la ville commence à être bombardée. On a l'impression, quand on voit les photos, d'être à Hiroshima. En fait, hein, c'est à peu près le même effet qu'on a. Tout est rasé. Alors, à la fois par les Alliés, mais aussi par les Allemands qui mettent le feu.
Brest est en ruine. Le port magnifique, ouvert sur l'Atlantique, n'est plus qu'un désert. La rue de Siam, orgueil de la marine, est bordée de squelettes. Et voici ce qui reste de Brest. Image terrible d'où il faut pourtant tirer une leçon d'espoir. C'est dans le spectacle même de ces décombres il faut trouver le courage de reconstruire la France.
Alors, la reconstruction, elle commence quand ?
La reconstruction, elle commence dans les années 46-47, à Brest, c'est Jean-Baptiste Maton qui s'en occupe. On va lui reprocher beaucoup de faire une ville au cordeau, sans âme, grise, moche, etc. Or, il part du plan de Vauban. Ça, c'est déjà une chose. Il va procéder par îlot, et qu'il va confier à d'autres architectes. On n'a pas le geste architectural comme au Havre, comme Auguste Perret, qui impose sa patte sur toute la ville avec des monuments très emblématiques. Pour moi, c'est plus une richesse d'avoir des choses déléguées à d'autres architectes. On a, je pense, une ville plus aérée, moins uniforme, même si ça saute pas aux yeux. Voilà donc un lien à cette ville reconstruite très compliqué, qui n'est pas encore. Ça commence là. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui comprennent pas pourquoi on est labellisé ville d'arrêt d'histoire alors que la ville pour eux c'est du béton moche, laid, gris. Voilà. On fait de la nostalgie sur la ville d'avant, c'était mieux avant, voilà, tout ça, ça c'est aussi pour vous dire à quel point la nostalgie était forte et où je pense on se leurrait. À un moment, la ville, au 19e en particulier, a été la ville, une des villes les plus insalubres de France. Donc, on relativise le c'était mieux avant, mais bon. Ce qui est aussi intéressant dans la spatialité de cette ville, c'est qu'elle est entourée par des communes qui sont aujourd'hui des quartiers. Donc on a le quartier de Saint-Marc, on a le quartier de Saint-Pierre et on a Lambézélec qui prend aussi une partie de Bellevue, hein, donc qui est par là. Aujourd'hui, ce sont des quartiers et qui ont été intégrés à Brest pour faire le Grand Brest en 1945. Mais qui jusque-là étaient des communes et donc on gardait un peu leur spécificité de commune. Et moi, je connais des gens qui habitent à Saint-Pierre et qui disent encore je vais à Brest. Il y a le centre-ville, mais il y a des identités auxquelles les gens de ces quartiers-là sont beaucoup attachés.
Ces quartiers, avant, c'était des communes en tant que telles. Avant que Brest et son agglomération se constituent. Chaque quartier, du coup, a son, un peu une identité à Brest, avec des quartiers plus ou moins artificiels, qui, du coup, ont davantage de difficultés que d'autres. Je pense notamment au quartier de l'Europe. Le quartier de l'Europe est un des quartiers qui est les plus récents dans sa création. Qui du coup a gommé par exemple le nom de Pontanézène. Vous n'avez pas entendu parler de Pontanézène encore ?
Son père, sa mère lui disaient souvent : tu fous rien et tu veux de l'argent. La nuit tu pars, le jour tu dors, t'attends peut-être qu'on te donne de l'or. T'as rien demandé, t'as rien donné, et pourtant tu voudrais qu'on t'aime. Continue comme ça et tu finiras en prison à Pontanézène. En prison à Pontanézène.
Moi j'ai découvert que des gamins de 10 ans qui avaient grandi dans ce quartier n'avaient jamais été voir la mer. La question des habitants, des citoyens, elle est primordiale pour moi. C'est une des premières questions que je peux poser moi à des artistes. Quand ils me parlent de leur intention de création, c'est forcément pour moi connecté à une intention de s'adresser à un territoire. Quand je dis territoire, c'est un contexte dans lequel des gens vivent. Le fourneau, quand on travaille avec cette ville, on s'appuie sur des relais de quartier qui travaillent toute l'année avec les habitants.
Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire ? Sur quoi vous auriez envie d'attirer notre attention ? qu'est-ce qu'on ne doit pas rater, en fait, pour essayer de raconter quelque chose de juste sur la ville aujourd'hui. Qu'est-ce que, en sachant que, voilà, nous, notre enjeu, c'est ça. C'est vraiment que ça raconte quelque chose aussi pour les gens qui vivent ici.
Ce qu'il ne faut pas louper, à mon sens, si on prend un peu de recul, c'est que c'est quand même une ville qui s'est bâtie à hauteur d'homme. Enfin, tu vois, on n'est pas forcément ni des intellectuels, ni. Voilà. Ou alors, quand il y en a, en fait, leur poésie, leur philosophie, leur manière d'écrire, elle se situe toujours, encore une fois, à hauteur d'homme. Enfin, ce qu'il ne faut pas louper de Brest, je pense que c'est ça, parce qu'on dit souvent, oui, Brest, c'est les Brestois, mais enfin, ça veut tout dire et rien dire, quoi. Mais en fait, oui, c'est à hauteur d'homme, mais depuis le début, en fait.
Nous, notre enjeu, c'est ça. C'est, on arrive là, on candide, en se disant, on va passer 2 ans ici pour écrire quelque chose de spécifique dont on ne sait pas bien ce que ce sera à la fin, et c'est ça qu'on aime.
Et qui sera de la fiction. En tout cas, on se nourrit de la réalité, et après, nous, on reste jamais là-dedans. C'est pas documentaire.
Non. Okay. Enfin, c'est très documenté, mais ça se fictionnalise. Par contre, ce qu'on aime, c'est montrer une pluralité de façons de penser, en particulier quand on peut se dégager un peu de ce que tout le monde assène. C'est comment est-ce qu'on raconte quelque chose qui, précisément parce qu'on a un regard extérieur, ouais, c'est ça qui va être, et qu'on essaye de aussi d'amener ailleurs, par un pas de côté, enfin voilà. Qu'il y ait une forme de récit qui soit familier, quoi. Ça vous va, on est vraiment au début du truc. Si vous êtes d'accord, on prend vos coordonnées. En effet, peut-être on reboit un coup dans 6 mois, 1 an. Parce que nous, on aura avancé.
À suivre. C'était le premier carnet de bord de Brest 2021-2023. Une proposition de Deux Chairs et Dos. Jonathan Macias, Caroline Melon. Avec dans l'ordre d'apparition, Caroline Raffin, directrice du Fourneau, Maïté Rivière, directrice du Quartz, Kevin Toquin, responsable du PC Sécurité du Quartz, Thierry Guilpin, du service historique de la Défense, Christine Berthoubalo, du service patrimoine de Brest Métropole, Yann Legat et Olivier Pollard, écrivain et historien.